Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus. Jésus de Galilée. Aussi dit Jésus le Messie. Mais plus particulièrement, Jésus mon ami. Alors, c'est vrai, lorsqu'on parle de Jésus de Nazareth, Nazareth en Galilée, en Israël. Certains ont vu en lui Jésus, fils de David, né à Bethléem, le Messie. Mais pour chacun d'entre nous, qui est-il vraiment? Alors j'ai retenu les chapitres 7 et 8 de l'évangile de Jean, dans lequel il y a plusieurs personnages qui interagissent et qui sont à l'écoute de l'enseignement de Jésus. On verra comment la technique va s'en sortir. Pour le moment, c'est bon. Et donc, dans ces deux chapitres, les personnages interagissent, reçoivent l'enseignement de Jésus. Et à un moment donné, sont face à une dualité. Il faut faire un choix. Et moi-même, j'ai fait ce choix et j'aimerais aussi vous interpeller. Quel choix ferez-vous? Quel choix allez-vous faire aujourd'hui? Le choix n'est pas pour demain. Alors nous voyons sur cette image, si la technique peut envoyer l'image d'après, alors j'aime bien suivre la présentation vidéo de ce texte par Bible Project. Ça se trouve, on peut le trouver sur le Top Chrétien. C'est bien fait, ça permet d'avoir un aperçu schématique, résumé de chaque livre de la Bible. Et voilà donc cet aperçu des chapitres 5 à 10 de l'évangile de Jean. Alors le chapitre 5, bon, vous le voyez peut-être pas très bien, mais je vous encourage à voir à la maison sur votre site internet, hein, sur le Top Chrétien. Donc le chapitre 5, c'est la guérison du paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Et Jésus l'a guéri un jour de sabbat, ce qui a provoqué la colère des autorités juives. Le chapitre 6, c'est la multiplication des pains. Jésus qui dit « Je suis le pain qui descend du ciel ». Le chapitre 9, c'est la guérison de l'aveugle de naissance. Et les chapitres intermédiaires, 7 et 8, c'est Jésus qui est en train de donner son enseignement et nous voyons que cet enseignement, il le donne pendant la fête des cabanes. La fête des cabanes, c'est une fête juive qui a été instaurée pour commémorer la sortie d'Égypte. C'est le symbole de la libération du péché. C'est aussi le signe que nous ne sommes pas installés dans des maisons en dur, mais nous sommes en route vers le pays promis, sans endroit confortable pour y poser notre tête. Et oui, nous sommes voyageurs sur cette terre, ne l'oublions pas. Nous ne pouvons y amasser aucun trésor. Alors, nous n'allons pas faire la lecture exhaustive des deux chapitres 7 et 8. Je vais vous afficher quelques versets à l'écran, particulièrement pour mettre en relief les différents personnages qui sont à l'écoute de l'enseignement de Jésus. Après cela, donc c'est au premier verset du chapitre 7, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Et oui, les autorités juives voulaient le supprimer. Au verset 3, Ses frères, les frères de Jésus, sa famille, lui dirent alors « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. » En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Quel comble avoir une famille qui ne croit pas en ce que vous faites. Au verset 7, « Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient « C'est quelqu'un de bien ?»« Pas du tout, répondaient les autres. Il trompe tout le monde. » Voyez, dans la foule, chacun a son petit avis. On sait ce que c'est, surtout nous en France. On aime bien donner son avis sur tout. Et au verset 14 et 15, la moitié de la semaine de fête était déjà passée quand Jésus alla au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tout étonnés et se demandaient « Mais comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié ?» Voilà, les Juifs, ce peuple qui a une religion historique, s'étonne. Comment peut-on connaître la Bible sans passer par les grandes écoles? Au verset 23, « Si on circoncit un garçon le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi, dit Jésus, parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat ?» Cet homme, malade, guéri, c'est le fameux paralytique du chapitre 5. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé quand il a été guéri. C'est après qu'il est revenu voir Jésus et que Jésus s'est révélé à lui comme le Messie. Au verset 33, Jésus déclara « Je suis encore pour un peu de temps parmi vous. Ensuite, je retournerai auprès de celui qui m'a envoyé. » Ce n'est pas explicite, mais c'est Dieu le Père. Donc Dieu le Père, Jésus se revendique d'être envoyé par Dieu. Au verset 39, en disant cela, Jésus faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans la gloire. L'esprit, donc la troisième personne de la Trinité. Je fais juste une petite parenthèse sur la Trinité. En effet, c'est un mystère, mais nous avons le devoir de le sonder. J'ai déjà été témoin lors d'une discussion avec des musulmans, et les musulmans enseignent à leurs enfants que les chrétiens sont des menteurs. Tout simplement parce que les chrétiens, en prétendant croire en un seul Dieu, en fait, ils croient en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Donc, ils ont trois dieux. Et donc dans le raisonnement de certains musulmans, les chrétiens sont des menteurs et on ne peut donc pas leur faire confiance. C'est pourquoi il est important de bien connaître ce mystère, sans parler des autres, bien sûr, mystères de la Bible, et pour rappeler qu'il n'y a qu'une seule foi et un seul Dieu. Et dans les groupes de maison, il y a quelques mois, nous avons étudié ce verset sur la Trinité. Donc, c'était dans Éphésiens, chapitre 4, verset 4, je le rappelle, c'est intéressant. « Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Voilà, ça c'est déjà au moins quatre prédications, mais je vais m'en tenir à mon sujet. Mais toujours est-il que dans les groupes de maison, on a l'occasion d'aller plus loin, de prendre le temps de réfléchir à ces sujets-là. Donc j'encourage vraiment les uns et les autres à vous y inscrire. Surtout que dans le projet de l'Église, la rencontre du dimanche, c'est un des piliers, et le deuxième pilier, c'est le groupe de maison. Donc c'est intéressant. Et c'est vrai que connaître la Bible, là je fais une deuxième parenthèse, la lire méthodiquement, que ce soit seul à la maison ou dans la communauté, ça me rappelle la prédication de Philippe Lanvin. C'était le 25 juillet dernier. Philippe Lanvin est un jeune étudiant en théologie qui fait son stage enfin qui est adjoint pasteur, maintenant il a fini sa formation. Et alors il nous a dit, comme image, à partir du carré suisse, le carré suisse c'est une toile de, je ne sais plus, 1m60 sur 1m60 que les soldats suisses utilisent, et assemblés bout à bout, ils peuvent en fabriquer une tente. Mais il faut des cordes pour tenir l'ensemble. Et il nous a dit ce jour-là, il nous a exhorté, l'enseignement de la Bible, c'est comme les cordes qui permettent à la tente de tenir. Et il a dit, voilà, vous avez un beau bâtiment, mais sans l'enseignement biblique, ce bâtiment-là ne pourra pas servir de lieu d'abri. Voilà, c'est un gros défi qu'il nous a donné, et je me permets de le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, et même pour ceux qui étaient là d'ailleurs. Dans ces deux chapitres, le chapitre 8 démarre par l'histoire de la femme adultère. C'est un sujet qui est plus connu, donc je vais faire exprès, je ne vais pas en parler. Mais néanmoins, ça existe. Et je vais plutôt, au verset 33, parler des descendants d'Abraham. Et voilà, les Juifs qui disent à Jésus, « Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ? Jésus répond, je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Et sur le même sujet, verset 35, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. L'esclave, si vous ne connaissez pas assez l'histoire d'Abraham, il a eu deux enfants, Ismaël, né d'une femme esclave, et Isaac, né de la femme légitime. Donc Ismaël et Isaac n'ont pas eu le choix, du fait de leur naissance, de décider s'ils allaient être esclaves ou libres. Par contre, nous, aujourd'hui, nous avons ce choix. Nous pouvons rester esclaves du péché ou faire le choix de nous en libérer. Verset 44. Un dernier personnage, le diable. Eh oui. Jésus dit, votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Et pour finir, les Samaritains, les Juifs disent à Jésus, « Nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. » Je reviendrai sur ce que signifie un Samaritain dans quelques minutes. Nous voyons donc cette histoire, les chapitres 7 et 8, Jésus qui est au centre, et tous ces personnages qui, à un moment ou à un autre, bénéficient de son enseignement, font des critiques, apportent des remarques. Et j'aimerais m'interpeller et vous interpeller. Comment je me situe par rapport à Jésus ? Où est-ce que je me place ? Mais, en préambule, il faut savoir qu'il y a deux camps, le bien et le mal. Le camp de Dieu, du bien, Dieu est bon, c'est une phrase qu'on a beaucoup chantée même ce matin. Donc Dieu, le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit, Dieu est bon. Et quand on est avec Jésus, on est automatiquement avec le Dieu de la Trinité. Il y a Satan, le Père du mensonge. Ce n'est pas moi qui ai qualifié Satan du Père du mensonge, c'est Jésus dans le verset que je viens de vous lire. Le diable, qui veut aussi dire diviseur. C'est la même racine. Satan qui veut dire adversaire et qualifié de père du mensonge par Jésus. Son plus gros mensonge d'ailleurs, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et il y a même des chrétiens qui y croient. Voyez. Ou alors de faire croire qu'il a une tête de monstre et qu'il fait peur. Mais pourtant non, il se déguise plutôt en ange de lumière pour séduire les chrétiens plus facilement. Il veut faire croire qu'il peut nous dévorer, mais il n'est que un lion rugissant. Il n'a pas de pouvoir pour nous dévorer si nous restons en Jésus. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, sous prétexte de liberté, nous avons cette liberté de choisir entre le bien et le mal, mais dans le monde d'aujourd'hui, la dualité du bien et du mal n'est pas reconnue. Vous connaissez cette chanson célèbre, « On ira tous au paradis ». De même, les religions libérales et humanistes prétendent que tous les hommes iront au paradis. Est-ce la vérité ? Je fais une petite parenthèse d'actualité. C'est comme pour la vaccination. Vacciné, pas vacciné, nous sommes tous libres de choisir. C'est mon corps. Mais si je tombe malade, j'attends des services de l'État qu'ils prennent ses responsabilités et ils ont obligation de moyens pour me donner la guérison. C'est pour ça qu'on a fait la sécu. Je ne vais pas épiloguer sur ce sujet-là qui peut dériver sur des discussions sans fin, mais dans le domaine spirituel, c'est un peu pareil. Je veux vivre ma vie comme je l'entends, et ensuite, comme Dieu est bon, je veux qu'il me trouve une place au paradis, puisqu'il est bon, c'est à lui de faire le nécessaire. Le message de l'Évangile est clair, je ne peux pas laisser passer cette affirmation. Dans Jean 3, verset 18, Jésus dit « Celui qui met sa confiance en moi n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en moi est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Il y a d'autres messages qui parlent de ce sujet, du jugement qui arrivera un jour inévitablement, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Je parle du chapitre 25 de Matthieu, où ceux qui ont commis des actions en faveur des personnes défavorisées, Jésus les a mis à sa droite pour leur promettre le royaume des dieux, et les autres ont été promis à l'enfer. Et donc, à travers tous ces personnages qu'on a pu voir dans ce contexte, nous avons plusieurs possibilités, plusieurs attitudes à avoir. Alors, par exemple, les religieux. Je viens à l'église tous les dimanches, je donne ma dîme, j'assiste au groupe de prière dans la semaine, mais cela ne suffit pas pour faire de moi un disciple si je ne mets pas la parole de Jésus en pratique. Il faut mettre la parole en pratique, il ne suffit pas de l'entendre. La foule. Beaucoup d'inconnus, il y a des païens, des juifs, probablement des romains de passage, et quand il y a des grandes fêtes juives, il y a des personnes qui viennent de tous des quatre coins de l'horizon. Donc je suis là, j'entends l'enseignement de Jésus, puis je repars, je ne prends pas parti, je ne retiens rien, et donc je ne peux pas mettre en pratique. La famille de Jésus, je suis proche, mais finalement je n'ai pas la foi. Même si je suis proche, j'ai l'occasion d'entendre souvent l'enseignement, mais je ne prends pas la décision de le suivre. Les Samaritains, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que c'est un groupe qui mérite un petit commentaire. Il ne s'agit pas simplement des habitants de la ville de Samarie, mais il faut remonter quelques siècles avant pour bien comprendre. Au moment de la destruction du royaume d'Israël, le royaume du Nord, au 8e siècle avant Jésus-Christ, le peuple de Samarie a été déporté en Assyrie. En échange, les Assyriens ont installé sur place un autre peuple qui ne connaissait pas la religion du pays, mais ils ont eu l'ordre de la respecter pour apaiser les dieux du pays. Cela a donné une religion mêlée de syncrétisme, et c'est une secte religieuse qui est concurrente du judaïsme avec son propre temple sur le mont Garizim. Alors pour les juifs religieux de Jérusalem, traiter quelqu'un de samaritain, c'est donc pire qu'une insulte xénophobe. C'est l'accuser de ne pas rendre le culte au Dieu d'Abraham. Et donc Jésus est traité de samaritain, c'est comme s'il était excommunié de la religion juive. Donc c'est vraiment une insulte très grave. Et c'est vrai que il y a d'autres fausses religions ou d'autres religions humanistes, l'hindouisme, le yoga, la scientologie, les témoins de Jéhovah, et j'en cite pas plus. Mais lorsqu'on est dans ces religions, on pense suivre Dieu et on pense bien faire. Mais en définitive, on n'est pas dans la bonne direction. Et toute cette religiosité est vaine et elle ne peut pas m'apporter le salut. Elle ne peut pas apporter la paix de mon âme. Alors, les enfants d'Abraham, je le disais tout à l'heure, Ismaël et Isaac n'ont pas choisi s'ils étaient esclaves ou libres, mais nous, aujourd'hui, nous avons ce choix. Aujourd'hui, nous pouvons décider, si nous nous disons chrétiens, nous nous libérons du péché, Dieu nous libère du péché, pardon, et nous pouvons donc nous rattacher à la bénédiction d'Abraham. Et c'est vrai, dans nos traditions humaines, les musulmans naissent musulmans et ils s'interdisent de changer de religion, les catholiques naissent catholiques et, soi-disant, ils restent catholiques jusqu'à la fin. Mais c'est pas comme ça. On ne naît pas chrétien. Il faut une démarche personnelle. On l'a vu tout à l'heure, nos deux frères et sœurs qui sont venus devant pour qu'on les accueille comme membres de l'Église. Ils ont fait un choix, un jour, de suivre Jésus, de se faire baptiser. Et c'est à travers cette démarche qu'ils sont devenus chrétiens. Jésus nous donne plusieurs conditions pour faire de nous des disciples. S'attacher à la parole. Je ne l'ai pas mis dans le texte, mais ça se lit, on le lit au chapitre 8, verset 31. Il faut aimer Jésus, écouter ses paroles et suivre son enseignement pour avoir la vie éternelle. Et c'est vrai qu'il y a quelques personnages qui ont choisi de suivre Jésus. On a vu le malade, celui qui a été guéri, le paralytique, même si au début il n'avait pas compris que c'était Jésus, le Fils de Dieu, mais une fois qu'il a eu cette révélation, il l'a adoré et il en est devenu disciple. Nicodème, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans ce texte, mais au chapitre 3, vous savez qu'il est allé voir Jésus de nuit, en secret, par peur des autorités juives, mais par la suite, il a publiquement pris position pour Jésus, au point de se faire insulter par ses collègues du Sanhédrin, du tribunal religieux juif. Mais cela ne l'a pas empêché de rester fidèle à Jésus. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, on se moque de nous. Ce n'est pas si grave. Dans d'autres pays, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, on risque beaucoup plus. On peut perdre son travail, on peut perdre sa maison. Dans certains pays, les chrétiens voient leur maison brûlée, ils sont mis en prison, tués parfois. Et je rends hommage à l'association Portes Ouvertes qui met une petite vidéo en ligne chaque mois pour mettre le focus sur un pays ou l'autre. Ça dure 3-4 minutes. C'est très bien fait. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce qui se passe dans le monde. La femme adultère, j'avais décidé de ne pas en parler, mais effectivement, elle aussi a été confrontée à l'enseignement de Jésus. Et Jésus lui a dit « Va, ne pêche plus ». L'histoire ne raconte pas la suite. On peut espérer qu'elle a mis en pratique cette recommandation de Jésus. Mais moi-même, dans tout cela, comment est-ce que je me retrouve? Alors, si je vous prêche aujourd'hui, si je suis devant vous, ce n'est pas parce que j'ai fait des études universitaires sur Jésus et sur la religion, mais c'est parce que j'ai choisi, quand j'avais 16 ans, de vivre en suivant Jésus, en lisant la Bible, pour comprendre ses commandements et pour les mettre en pratique. C'est cela qui me motive aujourd'hui de me tenir devant vous. Tout au long de ma vie, j'ai vécu pas mal d'expériences personnelles. Et chaque fois, ça conforte ma foi puisque c'est du concret. Alors, les études universitaires en théologie sont bien entendu utiles pour mieux comprendre le contexte, l'histoire du peuple d'Israël, la doctrine, l'éthique chrétienne. Mais si je n'avais pas vécu cela moi-même, mon discours serait vide et inintéressant. C'est vrai qu'on ne peut pas faire la promotion de quelque chose si on ne l'a pas expérimenté soi-même. Si vous voyez la publicité pour du chocolat, quel beau chocolat, quel bon chocolat, il aura moins d'effet, vous ne serez pas forcément tenté de l'acheter que si sur une chaîne YouTube, vous entendez un influenceur raconter le goût du chocolat, etc., comment il l'a dégusté. Donc là, vous aurez envie tout de suite de vous procurer du chocolat. Celui qui vit avec le produit, qui vit le produit, il en parlera avec conviction. Et il en est de même pour celui qui met la parole en pratique. Il sera un disciple engagé. Jésus le dit au verset 31 du chapitre 8, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. » Et alors, celui qui s'attache à Jésus, il parlera avec conviction pour faire aussi à son tour des disciples. C'est la vocation de l'Église. Alors, le plus important dans ma vie, c'est dans mon témoignage, justement, c'est ce que je vis, pas ce que je fais ou pas ce que je dis. Et c'est pareil lorsque on est confronté à des proches, la famille, les amis, les collègues de travail. Ils nous voient au quotidien, ils voient comment on vit. Donc, ils attachent plus d'importance à ce qu'on fait qu'à ce qu'on dit. Néanmoins, la vie chrétienne est un chemin avec des moments de foi et des moments de doute. Le doute est normal. Mais avec la persévérance, notre foi grandit. Par contre, dès que nous baissons la garde, Satan, notre adversaire, en profite pour nous envoyer des traits enflammés de doute pour nous détruire. Et le bouclier de la foi est là pour nous protéger. C'est vrai que si nous n'avons qu'une foi intellectuelle basée sur des connaissances universitaires ou bibliques, ou théologiques, le doute gagnera. Parce que notre intelligence n'a pas encore été transformée. Elle est encore sous l'emprise de Satan, sous la malédiction du péché originel. Et très clairement, la foi ne peut pas se démontrer. On peut faire un cours sur une religion, mais on ne peut pas démontrer la foi. Elle se vit pratiquement. Voilà, ainsi je pourrais, en m'appuyant sur Jésus, qui est la parole vivante, je pourrais développer une relation personnelle avec lui, et le doute ne pourra pas m'atteindre. Il sera balayé par ce bouclier de la foi. Et c'est vrai que dans les groupes de maison, c'est aussi un texte qu'on a étudié dans Éphésiens chapitre 6, il y a quelques semaines. Donc, j'insiste. Inscrivons-nous dans les groupes de maison, c'est important. Être enfant de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas inné. On ne naît pas chrétien, mais on le devient par choix. Et ensuite, on le vit au quotidien en le mettant en pratique. Alors Jésus, il l'a dit dans d'autres textes, il veut être notre ami, il veut être à nos côtés au quotidien. Et néanmoins, moi je reste humain. Et lorsqu'il y a des difficultés, lorsque le vent se renforce, lorsque la tempête se déchaîne, lorsque les vagues commencent à envahir le bateau, alors humainement, le doute me saisit. Souvenez-vous des disciples dans la barque. Ils n'emmenaient pas large. Ils étaient au large sur la mer de Galilée et subissaient une très grosse tempête. Ils craignaient pour leur vie humaine. Heureusement, ils ont eu le réflexe de réveiller Jésus. Jésus est tous les jours à nos côtés. Est-ce que nous le laissons dormir? Ou est-ce que nous le gardons éveillé en discutant avec lui, en lui présentant nos projets, en le sollicitant pour avoir son aide dans chaque situation, même dans les situations ordinaires? Si nous n'appelons Jésus que lorsqu'il est à la tempête, c'est sûr qu'entre-temps, il se sera endormi. Et ça prend toujours du temps pour le réveiller. Déjà parce qu'on ne pense pas qu'il est à côté en train de dormir. Donc on est en train de paniquer dans la tempête, alors que la solution est là. Mais même une fois qu'on a réalisé que Jésus est là, le temps de le réveiller, ça prend un peu de temps quand même. Et là, nos nerfs sont mis à rude épreuve, ainsi que notre foi. Par contre, comme je le disais à l'instant, si nous gardons Jésus à côté, dans un dialogue au quotidien, au moment venu, il sera opérationnel tout de suite. Voilà, donc c'est un peu ce style de vie. Alors, je le confesse, je ne le vis pas au parfait au quotidien, mais c'est vraiment ce à quoi j'aspire et à ce à quoi je veux vous encourager. Alors justement, toi, vous, est-ce que ça résonne en vous, tout ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous voulez que Jésus soit aussi votre ami de tous les jours? Le verset du chapitre 8, verset 31, je l'ai déjà lu, mais Si vous vous attachez à la parole que Jésus, que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Et un verset important que je n'ai pas encore lu, mais le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Alors, faites ce choix. Suivez Jésus. Beaucoup d'entre vous, je vous vois régulièrement le dimanche. Après, il y a aussi des visages que je ne connais pas, ce n'est pas grave. Donc, si vous n'avez pas encore fait ce choix, sachez que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Demain ne nous appartient pas. Donc, si tout ce qu'on a fait ce matin, le temps de louange, le temps de prière, cette exhortation que je vous ai donnée, si ça résonne en vous, prenez le temps de tourner vos yeux vers Jésus. Faites-le aujourd'hui. Nous allons prier, je vais prier. Pendant ce temps-là, dans votre cœur, tournez vos yeux vers Jésus. Expérimentez cet amour qu'il veut vous donner. Et une fois que vous l'aurez expérimenté, si ça ne marche pas, comme le chocolat, s'il n'est pas bon, vous n'y touchez plus. Mais si ça marche, vous serez alors en capacité de vivre une nouvelle expérience. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est vrai, tout ce que j'ai pu dire ce matin ne m'appartient pas. C'est ta parole. Je n'ai fait que citer l'enseignement que tu as apporté il y a 2000 ans déjà. Un enseignement qui reste tellement vivant, tellement d'actualité. Et tu nous appelles à être tes disciples. Ça veut dire tout simplement s'attacher à ta parole, tout simplement te faire entrer dans nos vies. Je veux te prier ce matin spécialement pour celui ou celle qui n'a pas encore fait cette démarche et pour que tu puisses le toucher, qu'il ait cette volonté d'ouvrir son cœur, de dire oui, jusqu'à présent je n'ai pas réussi à trouver la paix, mais avec Jésus je veux essayer. Je te prie vraiment Seigneur que ton esprit apporte cette conviction de péché, de justice et de jugement. Et je te prie vraiment, Seigneur, que les cieux puissent s'ouvrir pour celui ou celle qui est dans l'attente, qui a cherché pendant des jours, des années, qui n'a pas trouvé, alors que la vérité est en toi. Et ta vérité nous rend libres. Amen. Pour finir, cette dernière image qu'on a vue tout à l'heure, Jésus qui est au centre, qui dit « Je suis la lumière du monde » ou « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc ce qui importe aujourd'hui, c'est ce que vous vivez au quotidien. Et une fois que vous l'avez vécu et expérimenté personnellement, ben après on ne peut plus vous convaincre d'autre chose puisque voilà, c'est du concret. Vous le savez, dans une église protestante, il y a un pasteur, il y a un ancien. Ils sont disponibles à la fin du culte pour échanger avec vous. Il y a les personnes de l'accueil aussi, auprès de qui vous pouvez vous adresser pour avoir des renseignements sur l'église. Amen.